Merci Père éternel de nous aider à louer Jésus car il a donné sa vie pour nous, Seigneur. Les présidents, les vedettes de cinéma, de musique d'aujourd'hui profitent des gens qui les adorent, mais Jésus a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il est merveilleux. Il est magnifique. Que son nom soit élevé à jamais, Seigneur. En tout temps, devant tout homme, en tout lieu, Seigneur, nous confesserons le nom de Jésus. Qu'il y ait opposition ou pas, nous croyons que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il s'est humilié pour nous donner la vie et nous voulons l'imiter. Merci Père de faire en sorte que cette prédication serve à nous rapprocher de lui et à nous faire ressembler à lui. Parfaitement, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Papa. Amen. Nous prenons la Bible dans Luc au chapitre 23. Nous sommes toujours dans notre série sur l'homme qui à la croix se convertit. L'un des plus beaux cadeaux que le Père ait fait à son fils, ça a été de lui donner cet homme en salaire. Luc 23, cet homme qui fait que personne n'a d'excuses aujourd'hui pour dire « je ne crois pas, je refuse de croire ». Cet homme a cru en quelqu'un qui était crucifié. Nous lisons chapitre 23. À partir du verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Nous avons parlé du fait que l'homme à la croix, le deuxième voleur, était pour nous un modèle extraordinaire de conversion, de foi. Parce que croire en quelqu'un qui est crucifié comme toi, ce n'était pas donné. C'était vraiment de l'humilité. Cet homme a eu l'humilité de réaliser que lui-même était mauvais. Vous savez, aujourd'hui, on cherche des solutions par les médicaments pour guérir les maladies. On cherche des solutions par des organismes de paix. On a même créé des prix, prix Nobel de la paix. On veut encourager des discussions entre les gens pour créer la paix. On veut encourager l'entraide entre les nations pour créer la paix. On a fait les caméras, on les met dans les villes, dans plusieurs endroits, dans les banques, pour éviter les vols. Aujourd'hui, on pense même mettre des puces ou bien des bracelets électroniques à certains délinquants, à vie, pour éviter qu'ils récidivent. Les violeurs et autres, on pense à les castrer même chimiquement. Il y a plusieurs moyens qui sont mis en place pour faire croire que l'homme soit en paix, que l'homme vive dans la prospérité. On crée les OGM, les organismes génétiquement modifiés, pour multiplier la production agricole. On crée les hormones, on donne à des animaux pour multiplier la production animale. Mais nous nous retrouvons toujours dans des situations de crise, de viol, de meurtre, de divorce, malgré tous les produits d'esthétique. Aujourd'hui, les maisons d'esthétique, ça court les rues. Malgré tout ça, il y a des adultères, des infidélités. Malgré tout ce qu'on fait pour produire en grande quantité, ça ne marche pas. Il y a des agriculteurs qui se suicident. Ils prennent même du lait, ils jettent parce que ça ne rapporte rien. Le système n'apporte pas le bonheur. Il y a des gens qui ne font qu'économiser, hein, qui ont des comptes pour les enfants, des comptes pour eux-mêmes, des comptes, mais ils sont malheureux. Il y a des enfants qui ont une télévision dans leur chambre, un ordinateur, un grand lit, parfois à baldaquin, mais qui veulent encore se suicider. On se demande qu'est-ce qu'ils cherchent. Et c'est Jésus qui nous donne la réponse. Le vrai problème, c'est dans l'homme. Ça ne sert à rien de se battre sur l'extérieur. Commençons par changer le cœur humain. Si un cœur est bon, il ne peut pas te voler. Tu peux mettre toutes les caméras que tu veux, mettre la police, les alarmes. Les gens trouveront toujours des moyens pour voler parce que leur mauvais cœur va leur donner encore de l'intelligence pour contourner tout ce que tu fais. Comment, dans des pays comme la France, avec tout ce qu'il y a comme mesure de contrôle, les politiciens arrivent quand même à voler? Il y a tout le temps des procès sur des vols, des cambriolages, qui les streament, des comptes cachés. Parce que l'homme étant mauvais, il se débrouillera toujours pour créer du mauvais. Ce n'est pas les mesures extérieures qu'on peut monter qui peuvent éviter cela. Bien-aimés, aux États-Unis, c'est interdit la tauromachie. C'est-à-dire la tauromachie avec le sang. Ce qu'on voit en Espagne et en France, de jeux avec un taureau qu'on blesse, qu'on fatigue, et puis après qu'on tue à la fin. Les Américains disent, c'est horrible, c'est pas normal. On tue des animaux. Mais aux États-Unis, il y a le Ultimate Fight, les gens qui regardent ça, les combats UFC, combat toute direction, donc tout est permis. Où les hommes qui ne se connaissent pas, ils vont se battre pour qu'il y ait un vainqueur. Tout est permis, tous les coups sont permis. Bien, mais quand vous voyez ce combat-là, c'est horrible. D'un côté, les mêmes, ils disent la tauromachie, c'est horrible, mais eux, ils font la tauromachie des humains. Parce qu'un homme peut mourir dans ces combats-là. Là, ils n'y pensent pas. L'homme est mauvais. Donc, malgré tout ce qu'il fait à l'extérieur pour essayer de quitter le mal, ça ne marchera pas parce que le problème ne se trouve pas à l'extérieur, le problème se trouve à l'intérieur. Parce qu'un médecin qui fume, il est la preuve que le problème ne se trouve pas à l'extérieur. Parce qu'il a tous les diplômes qu'il faut pour bien connaître le corps mieux que toi, que vous et moi. Donc il sait mieux que vous et moi que la cigarette nuit très gravement à la santé. Lui, il connaît le mécanisme de nuisance mieux que vous et moi. Mais il fume encore. C'est la preuve que ses connaissances, ses diplômes, son intelligence ne lui sont d'aucune utilité face au mauvais penchant de l'homme. Le vrai problème, c'est les mauvais penchants de l'homme. C'est pourquoi Jésus, qu'on attendait par les Juifs pour les libérer des Romains, Jésus a dit, le vrai problème, ce ne sont pas les Romains, le vrai problème, ce sont les mauvais penchants de l'homme. Vous savez, moi, autrefois, quand j'étais jeune, vous savez, comme tous les jeunes aiment les mouvements de droit, quoi, le mouvement de justice. Et comme tous les jeunes, à peu près, puisqu'il y a aussi quand même des jeunes pourris dès le départ, mais comme tous les jeunes, à peu près, on était anti-dictateur, anti-Mobutu, anti-celui, donc n'importe quel dictateur, on était anti. Mais plus le temps est passé, J'ai été même dans un parti d'opposition. J'ai compris que dans le parti même d'opposition, il y a des gens qui attendaient de prendre le pouvoir. Leur problème, ce n'était pas le bien-être de la population. Leur problème, c'était s'opposer, prendre le pouvoir et jouir aussi, comme les autres. Quand j'ai compris ça, j'ai quitté la politique. Non, Dieu m'a fait quitter la politique parce que je voulais quand même toujours continuer. Mais il s'est fait qu'ils étaient négligents, ces gens-là. Moi, la chorale d'une église m'avait déjà rattrapé. Et quand ils ont voulu refaire les réunions, j'avais à choisir entre la réunion de la chorale et la réunion du parti politique. Bon, mon amour pour le Seigneur était déjà plus grand. J'ai choisi la chorale et c'est ainsi que j'ai échappé à ce milieu. Mais j'ai compris une chose. Le Seigneur m'a fait quitter ce milieu-là pour me dire, ce n'est pas tes combats de justice extérieure qui vont changer les choses. C'est changer l'homme à l'intérieur. En prêchant ma parole, tu changes les gens de l'intérieur et ils seront des bons citoyens. Et quand ils seront des responsables, ils seront des bons responsables. Parce que leur cœur a changé. Le vrai problème, c'est l'homme, c'est le cœur. Et c'est la vérité grande que Jésus-Christ est venu apporter. Et cet homme à la croix a réalisé cela. Il a dit, mais lui, il n'a rien fait. Nous, on a mal fait. On s'est mal comporté. Mais lui, Jésus, ne s'est pas mal comporté. Mais pourquoi on le tue? Pourquoi on le crucifie? C'est là qu'il a saisi. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Alors, notre prédication d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est sur Jésus, maintenant. On a parlé de cet homme-là qui a saisi le message de Jésus, qui a saisi qui était Jésus. Mais aujourd'hui, on veut prendre exemple sur Jésus à travers ce texte-là de la fin. On veut dire la vérité suivante. Il faut toujours travailler selon les moyens de Dieu. Travailler toujours selon les moyens de Dieu. C'est très important. Si tu es chrétien, apprends cela. Travaillez toujours selon les moyens de Dieu. Ne triche pas les moyens du monde. Ne triche pas les moyens des humains. Toujours travaillez selon les moyens de Dieu. Nous voyons la première scène là. Jésus est arrêté. Il arrive devant Hérode. Hérode, c'était un roi de l'époque. La libération de Jésus pouvait se décider là. Il suffisait qu'il fasse un miracle. Parce qu'Hérode le cherchait. Arrivé près d'Hérode, Jésus est là. Et il sait qu'Hérode le cherche. Il veut qu'il fasse un miracle. Jésus est le Fils de Dieu. Il avait capacité de faire le miracle. Mais ce n'était plus l'ordre de son Père. Il était dans une phase où c'était la phase de sa souffrance qui allait l'amener jusqu'à la croix. Et même si en faisant juste un petit miracle, cet homme-là pouvait guérir, Hérode pouvait le libérer, Jésus ne l'a pas fait. Hérode lui a posé des questions, Jésus n'a pas répondu. Jésus a travaillé que sont les moyens de Dieu. Les moyens que tu utilises pour sortir de ta situation, est-ce qu'ils sont de Dieu? Regarde l'exemple de Jésus-Christ, regardez l'exemple de Jésus. Il a utilisé la soumission. Dieu ne voulait pas qu'il fasse des miracles qu'il n'a pas fait. Dieu ne voulait pas qu'il soit libéré là, alors qu'il pouvait se faire libérer. Il ne s'est pas fait libérer. Bien-aimé, un chrétien ne doit pas forcer. Quand un chrétien force, en ce qui concerne les moyens à avancer, il y a un problème. Un chrétien doit seulement forcer dans la prière vis-à-vis de Dieu, dans sa relation avec Dieu, dans la prière, crier à Dieu, se rapprocher de Dieu avec violence s'il le faut. Mais en ce qui concerne le travail du Seigneur, en ce qui concerne sa marche, il doit marcher selon les moyens du Seigneur. Et Jésus-Christ n'a pas voulu faire autre chose. Il s'est laissé faire. Nous continuons. Verset 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie ! Crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Bien-aimés, observons la soumission du Seigneur. Le juge qui le jugeait déclare devant tout le monde, « Il n'a rien fait de mal. » Jésus pouvait saisir cette occasion pour se défendre. Non, il se tait. Il laisse les choses courir toutes seules. Il n'intervient pas parce qu'il avait la révélation qu'il devait être crucifié. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne marchent plus selon ce que Dieu pense, mais selon la logique qu'eux, ils ont reçue, selon leur réflexion. Bien-aimés, là, on pouvait dire, par exemple, prenons le cas des apôtres. Les apôtres, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disaient? Mais Jésus, c'est celui qui a guéri des paralytiques. Il a donné la vie aux aveugles. Même quand on est venu arrêter Jésus, le simple fait qu'ils disent, c'est moi, les soldats sont tombés par terre. Que devait être le raisonnement humain, charnel des apôtres? Mais il n'a qu'à se défendre, il peut le faire. À un moment, on a voulu le jeter du haut d'une falaise. Il a disparu, il est passé au milieu des gens, personne n'a pu rien lui faire. Ils ont vu tout ça. Il a calmé la tempête. Il a marché sur les eaux. Quel devait être le raisonnement charnel? Mais qu'eux allaient croire spirituel en ce moment-là. Mais Jésus est tout puissant, il a la capacité de s'en sortir. Mais Jésus, lui, connaissait la pensée de Dieu. Donc dans ta situation, dans ta marche chrétienne, par rapport à ton avenir, tu dois connaître la pensée de Dieu. Tu dois marcher selon la pensée de Dieu. Non pas selon ce que tu peux croire comme spirituel, mais en réalité qui est un raisonnement humain. Parce que eux, dans leur tête, ils se disent, puisqu'il est fils de Dieu, parce qu'il est tout puissant, on l'a vu, calmer la tempête, il doit s'en sortir. Et il néglige les avertissements que Jésus avait donnés à trois reprises. Le fils de l'homme doit souffrir, doit être maltraité. Quand vous lisez Luc 22, c'est tout cela, l'avertissement est là. Le fils de l'homme doit souffrir, maltraiter, être crucifié. Jésus avait averti à ses apôtres quel est son avenir, quelle est la pensée de Dieu pour lui. Il les avait avertis, mais l'homme n'aime pas la pensée de Dieu. Il veut trafiquer la pensée de Dieu, mettre cela à sa sauce. C'est pourquoi Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Tu dois chercher la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu Ce n'est pas seulement dans les songes, mais c'est dans la Bible. La pensée de Dieu est dans la Bible. Parce que quand on dit tu dois chercher, il y en a qui risquent de vouloir se réveiller la nuit pour savoir quels rêves ils ont fait. Non, la pensée de Dieu, c'est dans la Bible. Et si Dieu veut parler autrement, il va parler. Mais tu dois saisir sa pensée déjà qui est dans la Bible, qui est très claire. Jésus connaissait la pensée de son Père. Malgré les humiliations, vous imaginez, comme la plupart des hommes, ils aiment être applaudis par les femmes. Maintenant, les femmes pleurent. Ah, Jésus! Ah, Jésus! Quelle honte! Comme on dit, on l'appelle dans une des langues africaines, le costaud de Dieu. Il est humilié. Nous, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Bon, d'accord, je vais à la croix, mais ils vont voir que je suis fils de Dieu. Je vais porter la croix avec deux doigts, comme ça, ils vont voir que je... Mais non, Jésus-Christ a été même incapable de porter la croix. À tel point qu'il y a eu quelqu'un qui a porté avec lui. Donc il n'a pas voulu jouer. Quand même, ils vont voir, même si je cède, mais non. Dieu voulait qu'il soit humilié. Il a accepté d'être humilié. Moi, j'entends parfois des chrétiens qui disent, mais pasteur, quand même. Non, il n'y a pas de quand même avec Dieu. Cède seulement. Mais quand même, il m'a giflé. Cède seulement. Mais quand même, je ne veux pas laisser ma voiture partir comme ça. Laisse la voiture partir. Dieu a la capacité d'en créer une autre pour toi. Les quand même, il faut laisser. Il faut avoir foi en Dieu. Suivre la pensée de Dieu. Bien-aimés, comme nous sommes d'origine, je suis d'origine africaine, eh bien, on tient beaucoup au respect des adultes quand même. Tu dis, mais non, ce petit-là, il a quand même 14 ans, mais non. Dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas dit, mais non, j'ai 33 ans. Mais non, il a cédé, on lui a craché dessus, il a marché. C'est tout, bien-aimé. Il n'y a pas de quand même. S'il faut que tu sois humilié, laisse-toi humilier, laisse-toi écraser. Ah oui, mais c'est moi qui ai fait faire ces études à cet homme-là. Je fais ceci pour la personne. Ce n'est pas grave. Jésus a accepté son moment. Il n'a pas porté la croix avec courage, force. Non, dans la souffrance, c'est la honte. Et le démon disait, fils de Dieu, regarde comment tu es. Les autres disaient, regardez. Il est incapable même de porter la croix. Quel est ce fils de Dieu-là? Il n'a pas voulu se défendre. Il n'a pas voulu prouver quoi que ce soit. Il a dit, d'accord, c'est mon Dieu qui me délivrera. Bien-aimé, je vous avoue que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur peut nous donner la capacité de faire comme lui. C'est lui que nous devons imiter. Accepter d'être écrasé afin que son œuvre s'accomplisse. Bien-aimés, nous avons quitté le monde. Nous étions des gens, des combatifs. Tous les hommes sont combatifs. Tous les hommes veulent prouver, même les femmes. Mais si nous avons quitté ce monde-là, c'est pour changer de système. Pour entrer dans le système de laisser Dieu faire. Et de subir parfois, quand Dieu le veut. Donc c'est pourquoi il faut connaître la pensée du Seigneur. Nous continuons, bien-aimés. Comme il l'a mené, ça on a déjà lu, verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Amen. Jésus humilié par tout le monde. Et vous savez, pour mieux comprendre ça, il faut lire le psaume 22. Le psaume 22 parle de cette scène, mais en prophétie. Et nous, ce que nous voyons comme des humains qui sont en train d'humilier Jésus, en spirituel, lui, il voit ça comme des taureaux, comme des animaux sauvages qui sont en train de crier sur lui, d'aboyer, de l'injurier, de le menacer. Et c'est ce qui lui, il vivait ça comme ça. Ces humains-là se transformaient en monstres. Imaginez que vous êtes en détresse et que les gens se moquent de vous encore. Il se transforme en méchant, quoi. Déjà que votre enfant ou bien votre problème est grave. Et il vient encore dire, mais tiens, il parlait beaucoup. Voilà comment il finit. Tiens, il se croyait le plus fort. Voilà comment il finit. Mais pendant que vous voyez tout cela, et que, par exemple, vous êtes menotté, pendant que vous marchez, les menottes, au poignet, vous voyez les gens du quartier qui vous craignaient autrefois, en train de rigoler. Ah, bien-aimé, il se transforme en monstre. Vous n'avez même pas pitié de celui qui souffre. Mais sauve-toi toi-même. Bien-aimé, Jésus pouvait dire, Seigneur, je fais une parenthèse. Mais non, il ne pouvait pas faire de parenthèse. La série devait continuer. Parce que c'était la pensée de son Père. Parce que c'était le moyen que son Père avait choisi pour sauver l'humanité. Il fallait que ça se passe comme cela. Ce n'était pas d'autre moyen. Ce n'était pas par les miracles. Parce que Adam vivait un miracle quotidien, de chaque seconde. Vivre dans le jardin du Seigneur, c'était un miracle de tous les jours. Mais ça n'a pas empêché qu'il désobéisse. Aujourd'hui, Dieu a décidé qu'on est sauvé par la foi. Et à cause du sacrifice de Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on est sauvé. Jésus n'a pas réagi. Il a laissé faire. Parce que c'était le moyen décidé par le Seigneur. Il faut travailler avec les moyens décidés par Dieu. Tu n'as pas un tel don spirituel. Ne force pas. Fais avec les moyens que Dieu t'a donnés. Gédéon a dit, Seigneur, je vais faire comment tu m'envoies en guerre. Je suis petit. Ma tribu est petite. Je suis le dernier de ma famille. Les ennemis sont nombreux. Dieu a dit, va avec les moyens que tu as. Il n'y a pas autre chose. Va avec ce que tu as. Dieu veut qu'on travaille avec les moyens qu'il a mis en place autour de nous. Contentons-nous de ça et avançons. Ne pensons pas que notre solution viendra des États-Unis, ni de la Chine. La solution vient de ce que Dieu a mis autour de toi et en toi. C'est les moyens qu'il a prévus pour toi. La solution viendra de là. Et tu as la Bible. Tu as Dieu autour de toi et en toi. La solution est là. Ce n'est pas ailleurs. Jésus n'a pas cédé. Malgré de telles injures, il pouvait faire une pause. Mais bien aimé, dans ces choses-là, quand tu fais une pause, c'est parti, quoi. Une pause pour essayer un peu de faire justice et... Non, c'est parti. Vaut mieux tenir jusqu'au bout. Et nous, nous sommes des humains. Nous pouvons faire des pauses. Mais en faisant des pauses, sachez que, vous savez, à un moment, autrefois quand, je ne sais pas les appareils d'aujourd'hui, mais autrefois quand avec les magnétoscopes, quand tu faisais pause sur la cassette, à un moment, ça lâche tout seul, ça revient sur play. Hein. Donc, et donc, on peut faire une pause par rapport aux épreuves du Seigneur. Une pause par rapport à la marche avec le Seigneur. On se dit, non, j'ai trop souffert là, maintenant je vais réagir humainement un tout petit peu. D'accord, tu réagis humainement un tout petit peu. À un moment, la pause va se lâcher toute seule. Tu vas revenir encore dans la même épreuve, mais différemment. Il ne faut pas fuir les épreuves du Seigneur. Il faut les vivre une fois pour toutes et passer à une autre étape. Faire des pauses en réagissant humainement pour se soulager, ça ne fait qu'allonger le temps de l'épreuve. C'est très important. Travailler avec les moyens du Seigneur. Jésus est notre exemple. Cette scène-là de la fin nous le montre. il a travaillé avec les moyens du Seigneur. En ce moment-là, c'était se taire, il se tue. Sauve-toi toi-même, il se tait. Nous continuons. 39. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurier disant, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. 44, il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Bien-aimés, les choses changent. Dieu a laissé Jésus être persécuté. Jésus a accepté jusqu'au bout. Et il a eu le plus beau cadeau. C'est que le voleur qui était à côté, voyant cela, il s'est dit, ça, ce n'est pas un homme normal. Il n'a rien fait de mal, mais il se laisse faire comme ça. Il est calme, il y a un problème. Nous méritons notre condamnation, pas lui. Maintenant, je crois à ce que j'ai entendu. J'avais appris peut-être qu'il avait appris que Jésus disait qu'il était fils de Dieu. Jésus prêchait la parole. Certains disaient qu'il était le Messie. Là, en le voyant, il s'est dit, ça c'est le Messie. Lui l'a regardé en esprit, alors que les humains regardaient physiquement. Mais il ne fait plus de miracles. Mais il ne se sauve pas. Pourtant, on a vu ses exploits. Lui, il a dit, non, mais il a vaincu le mal, là. On lui a fait toutes sortes de mauvais exercices, toutes sortes de persécutions. Il est resté imperturbable, en paix. À un moment même, il a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. » Ça, ce n'est pas un homme normal, c'est un homme de Dieu. Il est exceptionnel parce qu'il a vaincu le mal. Bien-aimé, le vrai homme, ce n'est pas celui qui prêche bien. Le vrai homme, ce n'est pas celui qui fait des miracles. Le vrai homme, c'est celui qui est amour, bon, juste, droit. De sorte que tu lui as fait le mal, il n'a rien répondu, mais toi-même tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu sais que tu es redevable. Il t'a rien fait. Bien-aimé. Et même parfois, c'est des soupçons, mais un jour, l'Esprit de Dieu va te perturber pour te dire là, tu ne fais que soupçonner, tu n'as aucun élément. Et tu es perturbé. Et les gens se frappaient la poitrine. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Cet homme, on a touché à celui qu'on ne devait pas toucher. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien-aimé, tu peux résister 5 mois, 8 mois dans ton mal, dans ton entêtement. Mais un jour, la Bible promet que tu seras convaincu de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8 le dit. Mais vaut mieux que ça soit quand tu es vivant. Il ne faut pas que ça soit le jour du jugement où c'est trop tard. Vous savez, le jour du jugement de Dieu, personne, lorsque Dieu lui expliquera ce qu'il a fait, dira Dieu, tu as tort. Jean 16, 8 s'accomplira totalement. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Quand Dieu dira aux gens, vous allez en enfer, il y a des gens qui diront, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand Dieu expliquera, personne ne répondra. Parce que ce jour-là, les gens verront clairement. Ils vont se frapper la poitrine. Ils vont dire, qu'est-ce que j'ai fait? Même si ma femme se comportait de telle manière, ce n'était pas une justification pour que je fasse telle chose. Même si mes parents m'avaient fait fait ceci ou cela, ce n'était pas une justification pour que moi je commence à tuer les autres personnes. Ce jour-là, tous ceux qui se justifient en disant « j'ai eu une mauvaise enfance, c'est pourquoi je peux violer les autres tranquillement. J'ai eu une mauvaise enfance, c'est pourquoi je peux voler pour devenir riche. » Ce jour-là, ils manqueront de justification. Quand Dieu leur expliquera ce qu'ils ont fait, ils ont rejeté le Seigneur de gloire, le Sauveur. Dieu leur dira, mais mon cher, tu voulais que je fasse quoi de plus? J'ai donné mon fils. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai donné mon fils pour votre salut. Ton passé a été mauvais, d'accord, mais moi j'ai donné mon fils pour que toi tu changes de vie. Ce jour-là, personne ne se justifiera. Quand Dieu parlera, personne ne va se justifier. Tu as beau dire, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu as beau dire, je suis mal né. Tu as beau dire, on était pauvres. Tu as beau dire, on a vécu des guerres dans mon pays. J'ai vu des atrocités. Mais bien aimé, il y a dans certains pays, il y a eu des guerres, des atrocités. Il y a des gens qui se sont convertis malgré ça. Il y en a qui ont même vu toute leur famille tuée par un homme. Ensuite, ils ont pardonné à cet homme-là quand le Fils de Dieu a touché leur cœur. Parce que Jésus peut changer les choses, peut transformer les cœurs. C'est la vérité. Jésus est disponible. Le voleur à la croix, il s'est dit, mais non, je dois saisir cette occasion. Il est là, à côté de moi. Quoique crucifié, je crois qu'il y a quelque chose qui est en lui qui peut changer ma vie. Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Voilà la puissance de l'obéissance. Voilà la puissance de travailler avec les moyens du Seigneur. Un jour, tu seras dans une joie parfaite. Un jour, travailler avec les moyens du Seigneur. Un jour, tu seras dans une joie parfaite. Pendant que les autres disent, « Marie, tu sais, pour avoir un bon culte, pour bien amener les gens, il faut une bonne équipe de louanges. » Il faut un temps de prophétie, il faut un temps de puissance où les gens tombent beaucoup, et puis il faut un temps, 20 minutes de bonne prédication. Pendant que ces gens font tout ça pour remplir les salles, toi tu prêches la vérité. Et les gens fuient. Mais un jour, Dieu te donnera la joie parfaite. Un jour, quand tu verras un de tes disciples convertir 500 personnes, tu diras, j'ai fait du bon boulot. Merci Seigneur. Ah oui. Un jour, quand tu apprendras qu'un des disciples a tenu tête au prophète Baal et il a été vainqueur par Jésus, tu diras, voilà, si j'avais fait du commerce dans l'église, je n'aurais pas eu de tels disciples. C'est la vérité qui fait de vrais disciples. Mais au début, on peut souffrir. Au début, on peut être incompris. La famille peut dire, mais tu es devenu pauvre. Ça fait 10 ans, tu es pasteur, tu es chrétien. On ne voit rien se faire. D'accord, tu maintiens ta position. J'aime Jésus, il s'occupe de ma vie. Ah oui, mais nous sommes plus riches que toi. D'accord, Jésus s'occupe de ma vie. Et un jour, quand ils viendront frapper à ta porte pour dire, nous sommes dépassés par les problèmes. Est-ce que ton Dieu ne peut pas nous aider? Prie pour nous. C'est là que ta joie sera parfaite. On saura, on verra la différence entre ceux qui prient dans la vérité et ceux qui ne prient pas dans la vérité, bien-aimés. Il y a un temps où on doit laisser faire. Travailler avec les moyens de Dieu. Ne pas entrer dans la publicité. Aujourd'hui, les chrétiens travaillent avec le marketing. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Jésus marchait, prêchant aux gens. Jésus ne mettait pas de pancartes publicitaires. J'ai guéri. Il marchait, il voyait quelqu'un en souffrance et il guérissait, il ressuscitait. il convertissait. Et c'est son œuvre qui se répandait, le bruit de son œuvre qui se répandait. On voit de grandes affiches, grandes conférences, miracles, tu auras ton miracle, bien-aimé. Un homme devient Dieu, il décide comment donner le miracle aux gens, alors qu'on voit le Fils de Dieu, on attend qu'il fasse le miracle, il ne le fait pas. Parce qu'il voulait travailler avec les moyens du Seigneur. Travaillons avec les moyens du Seigneur. Ne forçons pas. Si le Seigneur ne fait pas de miracles, il est là, il travaille. Parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. S'il fait des miracles, d'accord. Mais on sait que ce qui est écrit, Jésus a dit aux apôtres, soyez contents non pas que vous ayez fait des miracles, mais que votre nom est écrit dans les livres de vie. C'est ça. Donc même s'il y a des miracles, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, mon nom est écrit dans le livre de vie. De l'agneau. Les moyens du Seigneur. La logique du Seigneur. Travaillons avec ça. Marchons avec cette logique-là jusqu'au bout. Même si elle nous est apparemment défavorable, soyons persévérants. Le Seigneur est fidèle. Dans sa fidélité, il montrera que tu as choisi le bon camp. Tu as choisi la bonne méthode. La bonne méthode, c'est l'humiliation et c'est la prière. Beaucoup dans des couples, dans des familles, ils veulent travailler avec les moyens humains. Tu apprends qu'à ton mari jette le regard sur quelqu'un d'autre. Aïe! Rendez-vous, maison de coiffure, esthétique. Pour essayer de concurrencer, bien-aimé, tu vas concurrencer le monde entier. Tu vas concurrencer le monde entier, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être propre. Mais je dis tout simplement, si tu veux être... Comme il y en a même qui vont loin, des chrétiens qui veulent être sexy, mais bon, on ne comprend pas pourquoi. Mais je te dis que tu vas te fatiguer. Parce que le diable a des instruments beaucoup plus sexy de loin, quoi. Tu vas te fatiguer. Sinon, les stars là, de la télévision ne divorceraient pas. Hein. Vous savez que les Claudia Schiffer, ils ont divorcé à un moment, hein. Donc, malgré la taille, tout ce que vous voulez, un jour, son homme-là a préféré quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas la solution. Et beaucoup de femmes s'emploient à vouloir arranger. Et même des femmes, des chrétiens. Vous savez, c'est ce qu'on conseille dans beaucoup d'églises aujourd'hui. On en dit qu'on ne vient pas, on est des chrétiens. Mais il faut comprendre. Donc, ton homme, c'est un homme quand même. Oh! Si ton homme, c'est un homme quand même, ce n'est pas un chrétien. Le chrétien est un homme spirituel. Il aime quand la femme est spirituelle. Pas quand elle est physique, bien-aimée. Ça, c'est l'amour de Dieu que le Seigneur met dans le cœur. On n'est pas contre une bonne apparence physique, mais nous devons la recevoir comme un cadeau de Dieu et vivre de cela normalement, sans forcer, sans vouloir l'utiliser comme instrument pour gagner certains combats, certaines victoires, ou pour retenir son mari ou sa femme. Non, on doit le faire parce que Dieu nous a créés beaux, il veut qu'on entretienne ça. C'est une bonne chose, mais ça ne doit pas se transformer en instrument. J'ai dit à beaucoup de femmes qui ont des maris inconvertis, j'ai dit, mais tu n'auras de repos que le jour où il se convertira. Tant qu'il ne se convertit pas, tout ce qui peut être une sorte de paix charnelle, c'est des moyens pour te fermer les yeux, te faire baisser ta garde. Tu te dis, ah, tiens, il change. Et puis, tu diminues la prière. Tu diminues l'intercession. Tu diminues l'adoration. Mais bien aimé, un païen peut-il changer? Impossible. Ce n'est que la conversion qui peut changer quelqu'un. Je vous parle en tant qu'ancien païen. Un païen a toujours des raisonnements de faire le mal. Toujours. Vous vous imaginez, vous savez, le nombre de caméras qu'il y a dans les casinos. Dans un casino, il y a des caméras et des caméras. Mais suivez les documentaires. Les employés du casino volent toujours. On les attrape toujours. Donc, ils pensent toujours connaître toutes les caméras. Et un jour, ils vont oublier une caméra.
C'est toujours ça. Malgré toutes les caméras qu'on peut mettre, mais l'homme qui manipule l'argent, il dit, mais non, mais là, il suffit d'une liasse, c'est bon, là. Donc, je vais mettre à dos, je vais cacher la caméra et je mets dans ma poche. Mais il y avait une caméra en face encore, que lui ignorait. Et après, on en fait des documentaires. Ça montre la soif de l'homme. Même s'il y a toutes les caméras, même s'il y a toutes les précautions humaines, l'homme a toujours des pensées de péché. C'est la Bible qui le dit. Sa chair est pourrie. Donc, un homme ne peut être libéré que par Jésus-Christ. Il ne peut changer que par Jésus. Donc, si tu vois une sorte de paix, d'accalmie, ne te fais pas d'illusions. C'est juste pour t'endormir un peu et ça va revenir encore. Le fait de l'amour ailleurs. Quand tu vois des paix comme ça, toi, tu t'enfonces toujours dans la prière. Tu dis, Seigneur, je ne me fais pas voir. Même si on m'a envoyé une belle carte postale, même si on m'a acheté des fleurs, une nouvelle robe, je ne me fais pas voir. L'intercession toujours. C'est un païen toujours, donc c'est une menace pour moi. Donc, toujours la prière. Toujours la prière. Les gens baissent des gardes. Ah tiens, ah, mais elle m'a fait un bon plat. Je crois que ça y est, elle commence à changer. Non, tant qu'elle ne s'est pas convertie, elle n'a pas changé. Ce n'est que de l'endormissement. Pour que toi, tu t'endormes. Et quand vous deux vous êtes endormis, vous deux vous dirigez en enfer. C'est ça le but du diable. Tu dois être toujours éveillé en esprit. Tant que quelqu'un ne se convertit pas, tu dois toujours être vigilant. Ce n'est que quand la personne se convertit, là, tu es en paix. Là, maintenant, tu es un collaborateur, une collaboratrice, un partenaire de combat. Là, tu es dans la joie. Tu ne dois pas relâcher. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes relâchent. Parce qu'ils voient des accalmies charnelles. Et c'est ainsi que... en quelque sorte, ils choisissent les moyens physiques, les moyens visibles pour régler les problèmes. Puisque visiblement, apparemment, ça semble aller. Aïe, c'est fait, ils se font avoir. Puisqu'on m'a dit des paroles romantiques, bon, ça va. D'accord. Le diable dit, je t'ai eu. Non, bien-aimé. Tant que quelqu'un ne s'est pas converti, tu dois toujours prier pour sa conversion. Pour que tu te sentes comme dans une sorte de paix. Mais sinon, tu dois garder toujours la paix, mais la paix par la foi, parce que nous sommes des enfants de Dieu, ta situation est sous contrôle du Seigneur. Mais tu ne relâches pas la prière. Tu ne relâches pas ta pureté. Tu ne relâches pas ta marche chrétienne. Vous savez que certaines situations ont besoin d'un canal pour changer. Pourquoi Dieu attend comme ça 400 ans? Pour que Moïse libère les enfants d'Israël, il fallait un canal. Pourquoi Joseph, alors que Jacob a eu 10 fils avant Joseph? Pourquoi Dieu va travailler seulement avec Joseph? Parce que les autres n'étaient pas des canaux appropriés. Il y a des situations qui vont attendre que le canal approprié puisse paraître pour que Dieu agisse. Et maintenant, le canal dans ta famille, c'est toi. Qu'est-ce que le diable va toujours faire? Faire en sorte que tu ne sois pas un canal fort. Pour que Dieu ne t'utilise pas pour convertir ton mari, convertir ta femme, convertir tes enfants. Il va faire tout pour t'endormir. À un moment, tu vois l'enfant qui se calme. Il commence à faire des choses autrefois qu'il ne faisait pas. Tu te dis, ça y est, merci Seigneur. Moi, je te dis non. Tant qu'il ne s'est pas converti, sache que c'est de l'endormissement. Tu ne dois pas te fier aux choses physiques, tu dois te fier à la conversion, à l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça que tu peux savoir que quelqu'un change. Sinon, c'est ton endormissement. Même si tu ne t'en rends pas compte, il y en a qui disent, mais non, mais lui, il ne me fait pas d'obstacle. Non, en réalité, il t'a eu dans un système. C'est toi qui ne t'en rends pas compte. Tu ne dois avoir de paix que lorsque l'enfant, le parent, la femme, le mari s'est vraiment converti. Là, tu sais que maintenant, le Seigneur va travailler tranquillement. Si tu soupçonnes une inconversion, même si vous venez vous deux à l'église, si tu soupçonnes qu'en réalité, il n'est pas converti, alors change de stratégie de vie. Vis comme avec un inconverti. Il y a des choses, normalement, tu dois te taire, tais-toi. Ne cherche pas à répondre comme si tu parlais à un chrétien qui va te comprendre. Là, tu parles à un inconverti, tais-toi seulement. Change de stratégie, vis différemment, c'est ainsi que la victoire se manifestera. Quand tu deviendras un canal fort, parce qu'il y a des choses que Dieu va faire à travers cette personne-là pour te purifier, pour que tu sois un canal puissant pour le changement de cette personne-là. C'est ce que le Seigneur a fait avec Jésus. Il a laissé Jésus maltraité, persécuté, écrasé, afin qu'il soit un canal approprié pour notre salut à nous tous. Donc c'est ce qui va se passer pour nous tous, bien-aimés. Nous serons écrasés, humiliés, rabaissés, afin que nous soyons des canaux pour les gens même qui nous ont écrasés, qui nous ont humiliés. Mais nous, quand c'est comme ça, on se permet de réagir par la chair, on se permet de fonctionner par la chair. Non, bien-aimés, nous devons toujours fonctionner selon les règles de la Bible. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat selon les règles. Quelqu'un te monte un coup, tu ne dois pas faire l'appareil. Tu dois bénir cette personne. Alors que tu as la possibilité aussi de lui monter un coup, tu ne fais pas ça. Combat selon les règles. Bien-aimés, nous devons respecter les règles. Nous devons marcher selon les moyens que Dieu a donnés. Selon la logique de Dieu qui est décrite dans la Bible. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Dieu nous a donné des forces. Et la prière, c'est une grande force. La vérité, c'est une grande force. Nous allons lire tous ces moyens-là que Dieu nous a donnés. Ce sont ces moyens qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser les moyens que le monde nous propose. Il y a des gens qui vont vous dire, mais non, dans le mariage, il faut se disputer souvent, ça met un peu du piment. Oh ! Prends du piment, mets dans tes yeux, tu vas voir comment ça fait mal. Non, il faut se disputer, c'est normal, ça met un peu du piment. C'est des mauvais conseils. Ce ne sont pas des choses bibliques. Et parfois, tu es en paix, tu veux disputer seulement pour mettre du piment. Ah, je te dis que tu ouvres la porte au diable. Il faut être en paix avec tout le monde. Voilà ce que dit la Bible. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Les disputes pour mettre du piment, c'est satanique. C'est pour qu'il entre et travaille. Il se dit, mais de temps à autre, il faut quand même goûter un peu de whisky, ça donne un peu de la chaleur. Aïe, tu commences comme ça, c'est fini. Il y en a qui donnent des conseils. Non, ce sont des enfants. De temps à autre, il faut les laisser faire certaines choses. Et puis surveiller, jamais. La Bible dit dans Proverbes 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Toi, le parent, tout ce que tu penses comme cadeau à donner à tes enfants, c'est le jeu électronique qui vient de sortir dernièrement. Mais non. Le fabricant de ce jeu a écrit sur le manuel, ça peut donner l'épilepsie. Toi, le papa, la maman, tu vas acheter pour ton enfant. Oh non, mais tous les enfants ont ça. Oui, mais et alors? Donc, le jour où tous les enfants auront la grippe, tu voudras que ton enfant aussi ait la grippe? Mais non, bien-aimé. Avec quelqu'un avait réussi à nous donner quand même un cadeau d'un jeu pour les enfants. Ben, on m'a mis des « Ah, mais laisse quand même, laisse. » Bon. J'ai dit « Bon, on va voir. » Vous savez, mais comme Dieu est fidèle et tout puissant, l'enfant va à l'école. La maîtresse lui dit « Ce ne sont pas de bonnes choses. » Maîtresse païenne, hein, elle lui dit d'une manière scientifique. Elle lui dit « Ça rend bête. » Le petit vient à la maison et me dit « Papa, la maîtresse a dit, moi, j'ai dit « Ah bon, je vais en profiter pour bien cacher ça une fois pour toutes. » Voilà comment Dieu nous aide même. Non, mais c'est des enfants. Il faut que de temps à autre les laisser libres. Bien-aimés, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est toi le responsable de l'enfant. C'est toi qui dois l'encadrer. Il y a des enfants qui ont un ordinateur dans leur chambre. Ils font comme ils veulent. On dit, mais non, nous sommes quand même dans un monde moderne. Mais qu'est-ce que un ordinateur dans la chambre, qu'est-ce que ça a à voir avec la modernité? Oh, mais bien-aimés, n'exagérons pas. Donc, après, vous allez vous étonner qu'il s'est fait violer quelque part par un pédophile. Ils ont été en contact à travers l'ordinateur. Non, bien-aimés. Travaillons avec les moyens du Seigneur. Éduquons les enfants avec la logique du Seigneur. Les moyens du Seigneur. N'utilisons pas les moyens des psychologues qui vont vous dire, mais non, c'est normal, c'est l'adolescence. Moi, je suis pasteur, je vous dis que dans mon bureau, je reçois tout le monde, jeunes et adultes. Les plus grands pécheurs, c'est les adultes. Ce n'est pas les jeunes. Alors, quand on vous ment, on vous dit, vous sentez un jeune vouloir faire des bêtises, on vous dit, mais non, laissez-le, c'est l'adolescence. C'est faux, c'est comme si on voulait dire que c'est normal qu'un jeune veuille faire du mal. Or, c'est faux. C'est les adultes qui font le plus de mal. J'avais même une amie de 88 ans qui me disait, mais Eric, je croyais qu'en vieillissant, je vais devenir sage. Mais là, plus je vieillis, plus je me sens mauvaise. C'est faux. Sacrifier le jeune au mal en disant que c'est la libido, c'est les hormones, c'est faux. En tant que pasteur, le constat que j'ai fait, c'est que c'est les adultes qui sont beaucoup plus enclins au mal que les jeunes. Alors donc, sacrifier le jeune au mal, c'est une fausse vérité. Au contraire, il faut les encadrer, les soutenir, le temps qu'ils soient encore inconscients, qu'ils soient comme protégés, et le jour où ils deviennent conscients, ils ont été protégés, ils ont été gardés bien, propres, sains, tranquilles, bien-aimés. C'est ça la vérité. On dit, ah mais non, mais c'est normal, il a quand même 17 ans, 16 ans, tu dois avoir un ordinateur dans sa chambre. Non, c'est faux. L'ordinateur doit être dans un milieu neutre où tout le monde peut voir parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de dangers. Voilà. C'est clair, bien-aimé. Nous devons utiliser les moyens du Seigneur, pas les moyens des psychologues ni les moyens de notre temps. Vous savez, autrefois, dans mai 68, on a dit qu'il est interdit d'interdire en France. Les jeunes ont fait la révolution, plus question de dicter à l'école. On va apprendre le français petit à petit, soi-même. Imposer les gens. On a même éliminé la dictée, vous vous imaginez, tellement ils ont voulu faire croire que plus on n'a pas besoin de la discipline. Un enfant va comprendre les choses tout seul. Ils ont changé les méthodes de lecture. Avant, c'était la méthode syllabique. Donc, on apprend les syllabes que l'enfant puisse, à travers les sons, transcrire des mots. Après, on dit non. Ça, c'est obligé, les enfants. Non, il faut les laisser lui-même en mémorisant les mots, il va les connaître. Résultat, les enfants qui finissent, les jeunes qui finissent l'université, plein de fautes de français. On se demande comment ils ont fini l'université. Parce que on a voulu faire les choses comme si les enfants étaient des adultes. Or, c'est des enfants, ils ont besoin des adultes pour être encadrés. Bien-aimés, nous devons travailler selon les moyens du Seigneur. Et la fidélité de Dieu fera que on verra les grandes choses se faire. Ah oui, mais l'église, pour fonctionner, il faut de l'argent. Pour travailler pour Dieu, il faut de l'argent. Et alors? Est-ce que c'est une raison pour commencer à vendre les choses chères pour renflouer l'église? Est-ce que c'est une raison pour commencer à faire des appels aux offrandes? Donnez l'argent. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Dans la Bible, on dit aux gens de donner volontairement. Celui qui donne peu aura peu, celui qui donne beaucoup récoltera beaucoup. C'est écrit, on enseigne, mais on ne peut pas au moment des offrandes faire des appels, donner. Ah, il y a des gens qui souffrent au Congo, il y a des gens qui souffrent au Bangladesh. Nous voulons faire un orphelinat là-bas, donner beaucoup. Mais non, ça ce n'est pas de la Bible. Nous présentons les choses simplement. Il y a de tels endroits qui ont besoin d'aide. Voilà, si quelqu'un est touché par le Seigneur, il peut contribuer à cette œuvre. Voilà, un point final, celui qui n'est pas touché, bon, donc c'est entre lui et son Dieu. Et puis, Dieu pourvoira à nos besoins. Amen. C'est écrit dans la parole. Jésus dit à ses disciples, allez, les poches vides. Et quand ils sont revenus, il leur a demandé, vous avez manqué? Ils ont dit, non. Aujourd'hui, les gens disent, le DVD de la prédication coûte 20 euros, de l'enseignement coûte 25 euros. Mais vous savez, ah oui, mais c'est cher. Ah, vous savez, hein, mais avec de tels langages, de tels ministères ne peuvent pas subsister. Hein. Donc les moyens viendront d'où? Mais qui t'a envoyé faire des prédications, des DVD? Bien-aimé. Imagine que tu es vendeur dans une boulangerie. Si tu n'es pas bien payé à la fin du mois, si tu n'es pas payé, tu vas réclamer ça à qui? Au client. Le client vient acheter son pain. Mais monsieur, moi, je ne suis pas payé. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un vendeur de boulanger, vous réclamez l'argent. Tu viens acheter des tomates. Le monsieur qui vend les tomates, il dit, mais monsieur, mon patron ne m'a pas payé. Paye plus cher tes tomates, comme ça mon patron va me payer. Mais c'est ce que les pasteurs font. Oh, frères et sœurs, vous ne pouvez pas connaître la souffrance des serviteurs. Donnez l'argent. Oh, plains-toi à ton patron. Qui t'a envoyé être pasteur? Qui t'a demandé? Les gens, ils louent. J'ai déjà assisté à une conférence où ils ont loué une grande salle, mais ils n'avaient pas encore payé. Et à la fin, on dit fermez la salle au moment des offrandes. Oh! Qui vous a demandé de faire la conférence? Comme les hommes sont aussi des grands techniciens, quand le monsieur qui faisait son spectacle, qui faisait tomber les gens, a prêché terriblement, quand il a fini seulement son ministère, comme on dit, il a fini d'exercer le ministère, les gens ont mis leur costume, ils s'est dirigé vers la porte. Oh, c'était le moment des offrandes pour payer la salle maintenant. Fermez la salle là-bas. Oh là là, bien-aimé, voilà où on en arrive. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils travaillent avec les moyens humains. On a besoin que l'argent vienne des hommes. Or, l'argent, ça vient du patron. Le vendeur du boulanger ne te demandera jamais ton salaire quand tu viens acheter ton pain. Il demandera à son patron son salaire. Un vrai serviteur de Dieu doit demander à qui? À son patron. Oh, vous savez, mais oui, mais aujourd'hui, il y a des chantres à temps plein. Son travail dans ce monde, c'est chanteur à temps plein. Mais il va vivre comment? Mais qui lui a demandé d'être chanteur? Il a un patron quand même. S'il a fait tout seul, eh bien qu'il se débrouille. Mais s'il le fait pour un patron, qui demande son argent, son patron. Son patron, c'est Dieu. Il ne faut pas commencer à vendre les choses chères, vendre pour. Et puis on écrit reproduction interdite. Vous savez, les cassettes des États-Unis, des choses de Dieu, tu les mets, ça commence par FBI warning. Donc, leur police là-bas, c'est comme si ça commençait par police nationale, avertissement de la police nationale. Une cassette de Dieu commence par l'avertissement de la police nationale. Bien-aimé, ne faut surtout pas copier parce qu'il y a des poursuites. Les choses de Dieu, lui qui a dit, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé, réfléchissons. Tu prends un livre, c'est écrit, reproduction interdite. D'une partie, selon la loi du 11 mars, j'ai même retenu ça, selon la loi du 11 mars 1957. Bien-aimé, non, les choses de Dieu. Oh, soyons sérieux, travaillons avec les moyens du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit que tu es chanteur, tu dois être connu. Il t'a dit, chante pour moi, c'est tout. Si tu dois chanter dans la salle de bain, limite-toi là-bas. Si tu dois chanter dans une salle, tu chantes. Si c'est dans les métros, tu chantes. Il ne t'a pas dit d'être connu. Oh non, et les gens vont venir avec des conseils. Non, petit, avec ta voix là, mais le monde entier a besoin de toi. C'est faux, le monde entier a besoin de Jésus-Christ. Toi, ta voix, c'est pour adorer le roi des rois. Celui qui sauve, celui qui touche les cœurs. Bien-aimé, ça, ce sont des méthodes humaines qu'on a mises dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas travailler avec ces méthodes-là. Nous devons travailler avec les moyens du Seigneur. Il n'y a pas d'argent, on ne loue pas des salles. Il n'y a pas de moyens, on ne fait pas des CD. Donc on fait en fonction de ce que lui nous donne. S'il ne donne pas, on ne fait pas. On fait ce qu'on peut faire. Va avec les moyens que tu as. Saül, il voyait les gens. C'était la guerre. Il voyait les gens commencer à partir. Or, on lui avait dit d'attendre Samuel pour faire la prière, pour faire le sacrifice. Il s'est dit, mais non. Là, je risque de me retrouver tout seul. Il faut que je fasse le sacrifice. Il a voulu faire par ses propres moyens, alors que le moyen du Seigneur, c'était attendre Samuel. Il n'a pas attendu Samuel. Et Dieu lui a dit, ben voilà, je te rejette, tu n'es plus roi. Avec moi, il faut faire avec mes moyens à moi. C'est ainsi que beaucoup de serviteurs de Dieu sont déjà rejetés. Les gens les voient travailler, remplir les stades, mais ils sont déjà rejetés parce que ce ne sont pas les moyens du Seigneur. Vous savez, il y a un proverbe dans le monde qui dit, la faim justifie les moyens. Bon, donc tant que c'est pour un sauvé malade, je peux voler. Tant que c'est pour aider un pauvre, je peux voler. Ça veut dire que l'acte que tu fais à la fin, s'il est bon, même si les moyens qui t'ont aidé à faire cet acte sont mauvais, tu peux toujours faire. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, si tu veux faire un bon acte, tu dois utiliser aussi des bons moyens. Ces moyens qui sont à lui. Ce n'est pas comme dans le monde. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire que tant que la fin est bonne, les moyens peuvent être mauvais, ce n'est pas grave. Avec Dieu, ça ne compte pas. Il appelle ça dans 1 Corinthiens 3, puisqu'on n'a plus le temps. Il appelle ça dans 1 Corinthiens 3 des œuvres de paille qui vont brûler à son retour. Les vraies œuvres, les œuvres de diamant, ce sont des œuvres faites par le Saint-Esprit, par les moyens du Seigneur. Même si ça n'a pas l'impression d'avoir du succès, c'est les moyens du Seigneur. Le Seigneur a décidé ainsi. Qui aurait pu croire que Jésus-Christ à la croix allait trouver le meilleur chrétien de tous les temps? Qui aurait pu croire ça? Cet homme-là qui ose croire à un crucifié, je n'ai jamais vu une telle foi, bien-aimé, toute ma vie. Nous tous, on a cru à un Jésus tout-puissant, mais lui, il croit à un Jésus faible comme ça, juste parce qu'il a discerné qu'il était bon, il était pur. Nous tous, nous cherchons à être libérés de nos problèmes, nous venons au Seigneur, cherchant la guérison, la délivrance. Lui, il a cherché la libération de l'âme, il n'a pas cherché à ce qu'on le descende de la croix, comme les autres disaient, qui se sauve et qui nous sauve. Lui a dit, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin du ciel, moi. Bien-aimé, parce que Jésus a respecté les moyens du Seigneur. C'était comme ça qu'il fallait faire. Il l'a fait. Il s'est laissé crucifier à la croix. C'était comme ça qu'il fallait nous sauver. Nous devons respecter ces moyens-là. L'amour, bien-aimé. La prière. La vérité. 2 Corinthiens 6, rapidement. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1er. Les moyens que le Seigneur donne sont tous là à peu près. L'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup, voilà les moyens du Seigneur, par beaucoup de patience dans les épreuves, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, patience, bien-aimés, dans les souffrances. Verset 5, sous les coups, patience, dans les prisons, patience, dans les rébellions, les gens qui se rebellent contre toi, sois patient, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Il y a des gens qui vont dire, mais tu jeûnes depuis longtemps, rien ne se fait, ce n'est pas grave. Patience. Nous continuons à jeûner. Nous continuons à veiller. Verset 6. Par la pureté. Voilà des armes que le Seigneur a données. La pureté. Jésus a été pur jusqu'à la fin. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Par la puissance de Dieu. Voilà les armes que Dieu nous a données. Ce ne sont pas les comptes bancaires. Ce ne sont pas les diplômes, c'est la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu. Il faut qu'on ait foi en cette puissance par les armes offensives et défensives de Dieu. Ça, c'est dans Éphésiens 6, on peut lire ça, là. On pourra lire plus tard. Les armes offensives et défensives de la justice au milieu de la gloire. Il y a des moments où nous serons dans la gloire. Et de l'ignominie, de la honte, de l'humiliation, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Donc il y aura des moments où Dieu va utiliser la mauvaise réputation. Alors qu'on n'a rien fait, mais on aura quand même la mauvaise réputation. Mais il l'utilise parce qu'il a un but. Et la bonne réputation, il y a des moments aussi. Donc pour la mauvaise, ce n'est pas à cause de ton comportement, c'est à cause des humains. Mais Dieu permet quand même que tu aies une mauvaise réputation alors que tu es bon. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Bien aimé, il y a des moments où on te regardera comme un imposteur. Il y a beaucoup de gens qui apprennent, mais tiens, C'est qui le pasteur? De quelle nationalité votre pasteur? C'est un Congolais. Ah, c'est pas la peine. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Regardez comme un imposteur, mais toi, tu sais qui tu es. C'est pas grave. Mais véridique, quoique véridique, comme inconnu, tu ne passes pas la télé, mais tu es connu du Seigneur, quoique bien connu. Tu es connu des élus de Dieu. Ils te connaissent. Mais le public ne te connaît pas. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui nous se sert de nous. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié. Parfois, les gens diront, tu es puni. C'est faux. Quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Parfois, les gens voyant tes difficultés, ils vont être plus tristes que toi, alors que toi, tu es bien. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. Dieu ne nous donne pas forcément de gros comptes bancaires, de grands châteaux, mais nous les donne en esprit. Bien-aimé, moi j'ai dormi dans de belles maisons, mais qui ne m'appartiennent pas. Donc, voilà. Mais toi, tu vas rester dans ta belle maison que ça. Mais celui qui marche en esprit va dormir dans de très belles maisons, mais ça ne lui appartient pas, mais ce n'est pas grave. Qu'il s'assure à lui ou pas, il a dormi quand même. C'est ça le plus important. Voilà. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. Par la prière, nous pouvons faire que quelqu'un devienne riche. Parce que lui, il a cet appel-là. Par la prédication, il écoute, il met en pratique la parole. Comme il a l'appel de devenir riche, il devient riche. Nous, nous sommes pauvres apparemment, mais la richesse est en nous par la prédication et la prière. C'est ça qui est plus important. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Amen, amen. Même si tu es un homme simple comme ça, le Dieu Tout-Puissant est en toi. Tu possèdes toutes choses. Tu parais pauvre, mais tu en enrichis plusieurs. Ne cherche pas à devenir riche. N'entre pas dans les guerres des chrétiens qui voient un chrétien avec une belle voiture. Lui, il veut acheter un meilleur. Oh, c'est honteux. Nous, nous marchons dans la maison de l'Éternel. David a dit, j'habiterai tous les jours dans la maison, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, même si nous marchons en pied, même si tu es dans le métro, en réalité, tu es dans la maison de l'Éternel. La plus belle voiture qui existe, c'est la maison de l'Éternel. Ce ne sont pas les Jaguars et autres qui, après 15 ans, s'usent. La maison de l'Éternel, c'est la plus belle voiture. C'est la plus belle maison. C'est le plus beau pays. Dieu est le plus beau cadeau. Et il s'est donné par son Fils à nous tous. Reçois ce cadeau-là et travaille avec les moyens du Seigneur. C'est le plus important. Les restes, laissons ça aux païens. C'est eux qui luttent pour être des stars. C'est eux qui luttent pour avoir l'argent. Nous, nous devons lutter pour avoir l'approbation du Seigneur. Amen. Et nous verrons les restes s'accomplir. Prions le Seigneur. Ô Éternel, merci de nous apprendre, Seigneur, à marcher selon ta logique à toi, Seigneur. Non pas selon la logique personnelle, selon la logique de méchanceté ou la logique charnelle. Même si les gens nous ont manqué de respect, même si les gens dans la famille nous ont pas considérés, femmes, maris, enfants, parents, mais que nous réagissions tel que toi tu l'as dit, Seigneur. Rendre le mal par le bien, c'est ça, Seigneur, la voie que tu nous as donnée. Ce sont les moyens que tu nous as donnés. Nous voulons pratiquer cela, Seigneur. Même si nous voyons des difficultés devant, que nous regardions à ta puissance, Seigneur, et non pas à la grandeur des difficultés, telles que les yeux les voient, telles que le corps les ressent, mais que nous regardions à ta puissance, Seigneur. Même si, Seigneur, nous sommes face à des défis, que nous ne regardions pas la grandeur de ces défis, mais la puissance que toi tu as, Seigneur. Même si nous vivons des combats intenses au jour le jour, mais que nous regardons à celui qui a dit dans Job 19, 25, je sais que mon rédempteur s'élèvera les derniers. Ô Seigneur, même si nous avons besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu, Seigneur, que nous ne flattions pas, que nous ne manipulions pas les gens pour avoir ces sommes-là, mais que nous prions, Seigneur, et que nous partageons les besoins avec les frères dans la foi, et non pas avec les païens, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, de nous aider à marcher selon tes moyens, Seigneur, selon ta logique.